France Inter, le 18-20.
3259 morts sur les routes de France en 2018. C'est évidemment encore beaucoup trop, mais c'est malgré tout le meilleur résultat depuis que les statistiques existent. Et surtout, c'est la première fois que la tendance repart à la baisse après 4 ans de hausse ou de quasi-stagnation. Alors comment expliquer ce bon résultat qui concerne aussi les blessés? Par l'abaissement de la vitesse limite autorisée à 80 km/h sur les routes à double sens, sans séparateur central, répond le Premier ministre Édouard Philippe, qui a porté cette mesure depuis le début. Pourtant, cet abaissement de la vitesse limite autorisée est toujours contesté par une partie des conducteurs qui s'en prennent même au radar. Le mouvement des Gilets jaunes a d'ailleurs largement contribué à la mise en lumière de cette colère, à tel point que le président Macron parle de trouver une façon plus intelligente de mettre en œuvre cette mesure. Le Premier ministre lui fait bonne figure, mais il ajoute qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Les associations de victimes de la route, elles, sont vent debout. Elles rappellent que la sécurité routière relève d'une politique nationale, alors que des présidents de départements se disent prêt à moduler la vitesse selon les axes. Avec nous pour parler de tout cela ce soir, Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Bonsoir monsieur Barbe.
Bonsoir.
Et Patrick Septier, qui est président UDI du conseil départemental de Seine-et-Marne. Il est en retard, il n'est pas encore dans ce studio, retardé je crois par un accident sur l'autoroute. On espère qu'il va rapidement rejoindre les locaux de Radio France pour nous joindre. Le numéro est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Harold qui nous appelle de Rennes. C'est bien ça? Bonsoir Harold.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Ma question s'adressait en particulier à France Inter et aux médias en général. Je voulais savoir pourquoi vous relayez en général sans remettre en question les conclusions fournies par le gouvernement, à savoir les 80 km/h ont permis l'abaissement de la mortalité en 2019, sans relayer les autres avis, entre autres associations d'automobilistes. Je pense en particulier à 40 millions d'automobilistes et qui ne sont pas d'accord sur ces conclusions. Pourquoi c'est toujours les conclusions du gouvernement qui sont relayées et quasiment jamais les autres avis.
Merci Harold pour cette question. On va poser cette première question à Emmanuel Barbe, qui lui est délégué interministériel à la sécurité routière, parce qu'il est arrivé avec des chiffres qui ont été donnés au début de la semaine, donnés par Édouard Philippe. Emmanuel Barbe, chiffres officiels, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Harold?
Je me défile pas, mais j'avais l'impression que la question vous était posée. En tout cas, ce que je voudrais dire sur nos statistiques, c'est que elles sont faites par des organismes, certes gouvernementaux, mais qui sont totalement indépendants du point de vue de la statistique. Donc il y a d'abord l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, à qui il est impossible de faire dire qu'il y a un chiffre qui n'est pas le bon, etc. C'est eux qui décident. Et en plus, en l'occurrence ici, les chiffres ont été fournis aussi à l'aide du CEREMA, qui est un organisme de recherche et d'expérimentation, qui est rattaché au ministère de la Transition énergétique et solidaire, et qui lui aussi est totalement indépendant. Donc ces chiffres sont ceux de ces organismes et le gouvernement ne fait que les citer, c'est mon cas aussi. Donc ce que je peux vous dire, c'est que pour le compte,
La question d'Harold, c'était aussi comment est-ce qu'on peut attribuer à la baisse de la vitesse limite autorisée sur certaines voies, la baisse du nombre de morts? C'est ça la question d'Harold. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas d'autres raisons? Comment avez-vous fait pour arriver au bilan que vous donnez aujourd'hui?
Alors, je remercie de cette question. En fait, donc, nous avons pris les morts qui sont sur les routes hors agglomération et qui correspondent en fait à 90% aux routes qui sont passées à 80 km/h. Et nous avons regardé la baisse au premier semestre, enfin, ou la tendance sur ces routes, ou le nombre de morts sur ces routes au premier semestre, puis au deuxième, par rapport aux 5 dernières années, pour éviter les effets de saisonnalité, puisqu'il y a des effets d'aléas dans les accidents. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que sur le premier semestre, eh bien, on est exactement à la moyenne du nombre de morts sur ce type de route par rapport aux 5 dernières années. Et en revanche, au deuxième semestre, eh bien, la différence, c'est celle qui a été annoncée par le Premier ministre. Et donc, c'est 116 morts qui correspondent à la différence par rapport à la moyenne sur 5 ans. Comme c'est des événements qui n'arrivent pas, il y a toujours une forme d'aléa, mais ce chiffre est relativement précis et surtout il correspond à la science de l'accidentologie qui est qu'il faut toujours s'appuyer sur des séries longues pour mesurer. Puis je voudrais dire un dernier point, il y a une association d'automobilistes qui en effet a promu un comité prétendument indépendant d'expertise sur le 80. Je puis vous assurer que le courrier que m'a envoyé son président démontre tout simplement qu'il ne s'est jamais intéressé à l'accidentologie ni à la collecte des données d'accidentalité et par conséquent le communiqué de cette association qui disait qu'il y avait zéro effet de la mesure 80, à mon avis, est tout juste ridicule. Donc voilà, après, dès qu'on fait de la sécurité routière, je ne sais pas quelle est la passion qui fait qu'on va contester tous les chiffres un à un. D'ailleurs, je note que ceux qui étaient opposés aux 80, parce qu'ils sont aussi attachés à la sécurité routière ou qu'ils ont une opinion différente, n'ont pas contesté les chiffres. Le point est un autre, je crois, et je crois que ce sera un petit peu l'objet de notre débat. Mais la contestation de ces chiffres, au fond, elle fait partie un peu de l'ambiance d'aujourd'hui où tout ce qui émane des autorités est contesté. Moi, je puis vous garantir que nous n'avons aucune influence sur ceux qui produisent les chiffres. D'ailleurs, des fois, je le regrette, parce que quand il y a certains épisodes, moi, je leur dis, mais ce mort-là, là, pourquoi on le compte? C'est une tempête. Ils disent, bah oui, bah, c'est la route, on n'a pas été capable de le gérer, voilà. Donc c'est notre faute.
Alors, merci beaucoup, Emmanuel Barre, pour ces précisions. Moi, ce que je peux vous rajouter, Harold, puisque vous vous adressez aux journalistes, c'est que on cite nos sources, voilà, donc c'est difficile de faire autrement. On prend les chiffres officiels de la sécurité routière, on précise bien ce qui a été dit par la sécurité routière et par le Premier ministre. Voilà, ce sont des chiffres, effectivement, qu'on vous donne et qu'on cite, voilà, avec peut-être plus de confiance à certains qu'à d'autres. Mais voilà quelle est la réalité, Harold. J'espère qu'on a répondu à votre question. Il se trouve qu'entre-temps, pendant toutes ces explications, Monsieur Patrick Septier est arrivé jusqu'à nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Président UDI du conseil départemental de Seine-et-Marne. Il y avait des petits soucis sur l'autoroute là soir pour arriver.
Il y a juste eu un accident sur l'autoroute. Voilà. Heureusement, c'était pas sur une départementale.
Vous, de votre côté, les chiffres qui ont été donnés cette semaine par la sécurité routière, vous ne les contestez pas ?
Les chiffres sont les chiffres. Nous, en Seine-et-Marne, nous avons également des chiffres. Ce qui nous gêne le plus, c'est un peu la méthode qui a été employée pour passer aux 80 km/h. On a dit, voilà, tout d'un coup, on passe aux 80 km/h sans avoir fait d'études, sans avoir fait de... Voilà, sans nous avoir consultés, alors que nous, on entretient les routes, on a des services qui connaissent bien le réseau départemental, nous faisons des travaux de sécurité, d'entretien.
Si je peux me permettre juste de peut-être ne pas trop toucher le micro, parce que ça fait beaucoup de bruit, voilà. Monsieur Septier, pardonnez-moi.
Et par exemple, sur le dernier semestre 2017, nous avons 4330 km de réseau. Eh bien, nous avons eu 19 morts. Sur les routes nationales et sur les autoroutes, 400 km de réseau, il y a eu 21 morts. Et donc, on a appliqué le 80 sur les 4330 km et on n'a rien fait sur les autoroutes ni sur les routes nationales. Donc, si vous voulez, ce sont des mesures comme ça qui arrivent un beau jour, alors qu'on aurait pu prendre le temps de discuter, de voir. D'ailleurs, c'est ce qui va être fait maintenant, puisque le Premier ministre ouvre la porte à une discussion. Donc, on va regarder, on va faire des études. Il y a des endroits, effectivement, où il faut rester à 80. Même, nous mettons des routes départementales à 70. Puis, il y a peut-être des endroits où on peut revenir aux 90 sans danger. Voilà, ce qui me gêne, et ce qui gêne, je pense, les habitants, eh bien, c'est ça. C'est une mesure systématique. On peut pas traiter 4330 km de route de la même façon.
Emmanuel Barbe, je vous promets que vous allez pouvoir lui répondre, mais on va partir au standard de France Inter, retrouver Marc. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
D'où appelez-vous Marc ?
Alors que non, je suis en vacances, mais j'appelle des Bouches-du-Rhône.
Oui, on vous écoute Marc. Je crois que vous êtes médecin, c'est ce qui est précisé ?
Voilà, je suis médecin réanimateur, alors je ne vais pas polémiquer sur toutes les histoires de statistiques et tout ça, mais pour vous faire part de mon expérience au cours de ma carrière, c'est que toutes les modifications qui sont arrivées au niveau du code de la route, c'est-à-dire la ceinture de sécurité, les 130 km/h, où les gens ont poussé des cris d'ailleurs aussi, les 90 km/h, les 30 km dans ville ou les 50 km, mais chaque fois nous avons constaté une baisse de la traumatologie et une baisse, heureuse et malheureuse en même temps, des possibilités de prélèvement d'organes, ce qui prouve bien que quand même la vitesse était un facteur de gravité et de mortalité. Alors je reviens un peu sur les gens qui poussent des cris en passant de, parce qu'on veut passer de 80 à 90. Ben c'est un sentiment, ils ont le sentiment que bien sûr, veut dire on laisse leur propre liberté. Le problème, c'est pas un problème de liberté, c'est un problème de santé publique. Parce qu'un mort, c'est un mort, c'est une chose déjà. Mais autour d'un mort, il y a une famille et autour du mort, il y a également des blessés. Donc c'est un problème de santé publique et c'est quand même la collectivité qui va payer.
Merci Marc pour ce témoignage. Emmanuel Barbe, qu'est-ce que
oui, je voudrais vous parler deux minutes. Bah, d'abord, je le remercie. On travaille beaucoup, évidemment, avec tous les urgentistes et on sait très bien cela que la politique de sécurité routière, elle est partie au début du fait qu'il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Imaginez qu'en 72, il y avait 18 000 morts sur nos routes. Moi, je voudrais vous parler un petit peu en tant que citoyen. C'est-à-dire que, au fond, on a un débat autour de ce 80 qui serait insupportable, etc. Moi, je veux bien. Bon, c'est certain que c'était ennuyeux à 90, c'est encore plus ennuyeux à 80. Mais, on a fait une étude avec le CRMA, enfin, ou plutôt le CRMA a fait une étude qui est disponible, qui est en ligne, où ils ont retenu 300 trajets qui correspondent à des trajets pendulaires, c'est-à-dire on va au travail, on en revient. On a pris 70% de routes à 80 dessus, enfin bidirectionnelles, et on a mesuré les temps que donne Google Maps pour faire ce trajet avant juin et en septembre. Et on va continuer évidemment ce travail. Or, ici, il y a quelque chose de saisissant, mais qui est tout à fait prouvé, qui était prouvé par les journalistes qui avaient testé le 80 avant l'heure, c'est que certes, dans un certain nombre de cas, on a 66% des itinéraires où il y a une perte de temps. Est-ce que vous imaginez de combien elle est ? Elle est colossale, elle est d'une seconde par kilomètre dans 37% des cas, et dans 4% des cas, elle est de plus de 5 secondes par kilomètre. Donc l'enjeu ici, il est là. Mais il y a quelque chose de plus surprenant, mais qu'on savait aussi, parce qu'on l'a constaté sur le périphérique quand on a baissé la vitesse de 80 à 70, eh bien 34% des itinéraires que nous avons retenus, on a un gain de temps de 1 à 5 secondes. Donc moi, je parle, évidemment, j'ai soutenu cette mesure, donc je suis d'une certaine façon très impliqué dans cette affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce temps perdu, c'est ça l'enjeu. C'est le véritable enjeu. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Conseil d'État a accepté cette mesure, parce qu'il a dit qu'elle était proportionnelle.
Monsieur Septier, vous avez vraiment l'impression de perdre du temps, vous, quand vous roulez à 80 ?
Je pense que c'est pas tellement une perte de temps. C'est plus une occupation de la route. Parce que, par exemple, alors il y a un problème de camions. Alors, je parle de mon département, que je connais bien. Quand on met la route à 80, les camions restent à 80. Il est impossible de les déplacer. Et à des moments donnés, vous vous trouvez devant des noyades de camions, des noyades de voitures. Ça énerve tout le monde et on crée un sentiment d'insécurité routière. Avant, nous ne l'avions pas. Les camions étaient limités à 80. On pouvait dépasser. Aujourd'hui, on ne peut plus parce qu'il y a le radar en face. Donc, pourquoi pas le 80? Mais à ce moment-là, il faut revoir dans l'ensemble aussi la vitesse des camions pour que on ne crée pas cette insécurité qui existe réellement. Quand vous avez des routes en Seine-et-Marne sur des kilomètres et des kilomètres qui sont toutes droites, vous êtes limité à 80, que vous ne pouvez pas dépasser, et bien à un moment vous allez dépasser, vous allez vous créer du danger.
Emmanuel
et
Barre,
vous allez être dans l'illégalité.
Ça c'est un argument qui revient depuis longtemps, depuis qu'on parle du 80 km/h.
C'est très étonnant pour deux raisons. La première, c'est que quand les voitures pouvaient rouler à 90, si vous deviez doubler un camion à 80, il fallait 1 km pour le doubler. Autant vous dire que vous commettiez beaucoup d'excès de vitesse. Donc cet argument, de mon point de vue, est peu pertinent. L'autre point, c'est que moi je sais que la perception, c'est la réalité. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Nous avons mesuré avec 50 petits radars qui sont cachés, qui mesurent les vitesses et les interdistances. On a regardé, avec 44 millions de passages qui ont été mesurés depuis le 1er juillet, si les intervalles entre les camions et les voitures avaient changé. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'effet de peloton. Eh bien, le chiffre est identique. Alors, on continuera ces mesures et on le prouvera. Ce que j'essaye de dire, c'est que certes, le 80, c'est énervant pour des tas de raisons, mais en réalité, la mesure statistique, et Monsieur le Président, je pense que vous utilisez les mêmes, donc et vous l'avez dit, vous contestez pas ce type de chiffres, montre qu'en réalité la perception influence beaucoup les choses, mais que la réalité n'est pas là.
Donc, mais la perception est essentielle quand on conduit une voiture, quand on a ce sentiment d'être oppressé sur la route parce qu'il y a un camion qui est devant vous, vous pouvez pas le doubler. Et voilà. Et je pense que ça accroît ce sentiment d'insécurité. Et le fait de passer à 90, alors je dis pas qu'il faut passer dans tous les cas, mais dans certains cas où il n'y a pas eu d'accident, où la route est entretenue, où elle est sécurisée, eh bien, permettrait certainement de lever ce sentiment d'insécurité sans pour cela augmenter l'accidentologie sur le secteur.
Monsieur Septier, est-ce que vous, en tant que président du conseil départemental de Seine-et-Marne, vous souhaiteriez avoir la main sur la réglementation, pouvoir aménager, vous, certaines voies à double sens sans séparateur central ?
Oui.
Aménager la vitesse ?
Le tout, c'est de le faire de bon sens. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Comme je le disais tout à l'heure, il y a certainement des endroits où il faut que ce soit 80, même à 70, parce qu'il y a de la dangerosité.
Mais vous êtes prêt à endosser cette responsabilité, c'est ça que je veux dire.
Non, mais la responsabilité, tout à l'heure, je vous disais que sur 4330 km de route, on avait moins d'accidents sur la partie nationale qu'il y en a 400. Que l'État endosse aussi sa responsabilité sur ces 400 kilomètres. Je veux dire, on va nous faire porter une responsabilité sur... j'ai quand même un peu de mal à comprendre le raisonnement. Il y a 10 fois plus d'accidents sur 400 kilomètres, et là, on n'a pas bougé la vitesse. Et sur les départementales, 10 fois plus de kilomètres... Et là, avec moins de morts, on va nous obliger à le faire.
Emmanuel Barre,
je ne conteste pas qu'il faut peut-être le mettre, le 80 km, quelque part. Mais c'est un problème de méthode.
Vous pouvez répondre à Patrick Septier. Ensuite, on entendra un autre président de conseil départemental qui nous attend au téléphone.
On ne peut pas comparer les routes comme ça parce qu'il faut regarder le trafic qu'il y a dessus. Donc la comparaison doit être évidemment...
Le résultat, c'est quand même le nombre de morts.
Non, vous avez raison, mais elle doit être fortement pondérée par le trafic. Ce que j'essaie juste de vous dire,
c'est que le résultat,
sur
quand même,
les
il
routes
là.
Dont vous parlez, dans votre département, les 8% de routes principales, celles qui ont le plus gros flux, le plus haut niveau de service, elle représente 8% des routes. Et vous avez sur ces routes 29% de la mortalité. C'est-à-dire qu'il y a un effet multiplicateur sur ces routes. Elles représentent 3,6 fois plus que leur distance en pourcentage de morts. C'est ça la difficulté. C'est qu'au fond, un accident aujourd'hui ne se produit plus dans des zones particulières. C'est un effet statistique qu'on peut mesurer sur un type de route. Donc, c'est pour ça que avait été fait ce choix. On peut le changer. Mais d'une manière ou d'une autre, on voit bien que les routes qu'on a envie fortement de passer à une vitesse supérieure, sont les routes sur lesquelles il y a un multiplicateur des accidents qui est très très fort. C'est le point que je veux vous dire. Et après, je suis convaincu que vous êtes favorable à la sécurité routière. C'est vraiment une chose que je ne mets pas en doute.
Comme promis, nous allons au standard de France Inter parce que cette fois, c'est Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne, qui nous attend. Bonsoir, monsieur Leblois.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez souhaité intervenir. Et peut-être, est-ce que vous avez le même point de vue que Patrick Septier, votre confrère de Seine-et-Marne sur ce sujet ?
Je pense qu'on a des enjeux communs, même nos deux départements sont quand même très différents. Moi, je suis président d'un département rural avec 4000 kilomètres de route départementale. La sécurité routière fait partie de nos priorités, bien entendu. Et le passage à 80 kilomètres heure sur nos routes a fait l'objet d'un grand débat et d'une grande contestation de la part des usagers qui l'ont subi comme une contrainte. Alors moi, après, est-ce que le nombre d'accidents en baisse est lié à la limitation de vitesse ? Sans doute, et puis je ne peux que m'en réjouir, mais les chiffres de mon département ne le traduisent pas, puisque le nombre d'accidents entre 2018 et 2017 est le même, exactement le même. Même le nombre d'accidents graves a augmenté en 2018 par rapport à 2017. Mais ce que je voudrais dire avant tout à votre... au représentant Emmanuel Barbe, c'est que pour moi il faut du bon sens dans ces mesures qui sont prises aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on en manque un petit peu. Pour moi il n'y a qu'un code de la route. Et le code de la route, quel que soit le département que les automobilistes vont traverser, doit être le même. Et le code de la route, c'est la traduction même du bon sens. Et j'ai l'impression qu'on en perd un petit peu dans cette opération. Avec les limitations à 30, à 50, à 70, à 80, à 90, je pense que ça va être très difficile à l'automobiliste de savoir quelle est la vitesse à laquelle il doit rouler. Et puis, je dirais que ce qui me gêne le plus, un peu comme mon collègue, c'est que la décision, elle a été prise au départ pour le passage à 80 km heure de façon unilatérale, sans tenir compte des efforts ou des aménagements qui ont été faits dans chaque département. Moi, le code de la route à 90 m'a amené à définir des zones dangereuses. J'ai une carte de zones dangereuses sur lesquelles j'ai défini le 70 km heure. On en a un nombre important, ce qui était pour les automobilistes un indicateur important, puisqu'ils savaient qu'ils arrivaient dans une zone dangereuse. Donc on n'en a pas tenu compte, on a passé tout le monde à 80. Maintenant, le 70 n'a plus de sens. Et puis on me demande est-ce que je serais d'accord pour mettre des zones à 90. Et je vais dire à Monsieur Barbe, absolument pas. Absolument pas, parce que le code de la route, pour moi, c'est une mesure nationale. La même partout, c'est ce que je disais au départ, et je ne serai jamais responsable du fait d'autoriser, de dépasser une vitesse réglementaire. Donc voilà un petit peu mon sentiment par rapport à ce changement de vitesse.
On a bien compris, Jean-Claude Leblanc. Oui, tout à fait. Le code de la route est le même pour tous.
Le code de la route doit être le même pour tout le monde. Et en tant que gestionnaire, j'ai des responsabilités d'aménagement, de sécurité et tout, que l'on fait. On engage plus de 30 millions par an pour faire des travaux sur les routes départementales. Donc c'est un effort important. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on voudrait nous renvoyer un petit peu le bébé, entre guillemets, et qu'on ne nous a pas entendu au départ pour prendre la situation dans laquelle chaque département se trouve.
Merci.
Voilà la première partie de mes propos en direction de votre invité.
Merci beaucoup Jean-Claude Leblois pour être intervenu sur l'antenne de France Inter. Emmanuel Barbe, c'est vrai que de toute façon la politique de sécurité routière est une politique nationale.
C'est ça que fondamentalement on a depuis toujours une définition de la vitesse sur les routes qui est liée au type de route. Par exemple, vous savez qu'un panneau d'entrée dans une ville vous dit qu'il faut rouler à 50 km/h, parce qu'en ville, on est à 50 km/h. Vous êtes n'importe où perdu dans une campagne. Si vous voyez une route bidirectionnelle, vous savez que vous devez rouler à 80. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé très très peu de panneaux, puisque c'est la vitesse par défaut. Vous êtes sur l'autoroute, c'est 130. Donc la difficulté de toute adaptation, c'est celle-ci. C'est pour ça que le choix qui avait été fait était celui-là. Alors moi, je dois dire que tous les précédents changements de vitesse en France ont été faits de la même façon, et je précise que le passage à 80 était précédé d'à peu près 4 ou 5 ans de débat. C'est pas quand même une mesure qui a été faite comme ça. Il y a eu énormément d'études et c'est fondé sur une donnée statistique qui est que si vous baissez la vitesse moyenne sur un réseau, vous baissez le nombre des morts. Alors, c'est comme la rotondité de la Terre. C'est impossible de le voir parce que c'est un effet statistique. Mais ça marche comme la Terre est ronde.
Et puis que de toute façon, à chaque fois que des mesures ont été prises, que ce soit le permis à point, que ce soit les radars, que ce soit tout ça, à chaque fois il y a eu des contestations. Et dans votre département, Monsieur Septier, les radars, il y en a encore qui sont en service?
Oui, il doit y en avoir encore quelques-uns, oui.
On part au standard de France Inter. Damien, qui est agriculteur en Mayenne, voulait nous parler des radars, justement, je crois. Bonsoir, Damien.
Bonsoir. D'abord, merci de prendre mon appel.
Ben, je vous en prie, on vous écoute.
Alors moi, je voulais faire une intervention sur deux ou trois points. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont observé ça comme moi. On a une portion de 20 km de route, il y a 4 radars. Bon, là, il y en avait quasiment 4 qui étaient pour un service, mais sinon, habituellement, ça arrive jamais qu'il y ait 4 en service en même temps, quoi. Il y en a toujours un dégradé ou quelque chose. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de morts. Ensuite, tout le monde nous donne des leçons, en sachant qu'on a du temps limité et qu'on a beaucoup de routes à faire pour aller à des instances professionnelles ou autre chose. Et ben, c'est beaucoup de temps perdu à chaque fois, quoi. Sur 80 km, moi, je perds entre 10 et 15 minutes. Alors, théoriquement, ça prend moins. On perd moins de temps. Mais en pratique, il y a toujours des gens qui roulent en dessous de la limitation et autres. Et ce qui fait qu'on perd plus de temps.
Est-ce que vous avez une petite question, Damien, peut-être?
Oui. Je voudrais savoir s'il y en a d'autres personnes qui ont observé ça. Moi, je consomme plus depuis que c'est 80 km/h. Parce qu'on sait jamais, il y a toujours quelqu'un qui roule à 70 ou quoi devant, on sait jamais si on est en quatrième ou cinquième, et moi je consomme plus.
Alors merci Damien pour cette question, Emmanuel Barbe. C'est vrai que on nous la pose cette question sur franceinter.fr aussi, parce que normalement quand on réduit la vitesse, on consomme moins, non? Et là on nous dit que c'est le contraire.
Non, mais moi je si ce monsieur dit qu'il consomme plus, je le crois sur parole, c'est pas la question. Je pense qu'il faut simplement regarder ça au niveau de la nation, de voir si ça fait consommer moins. Moi ça me semblerait logique que si on emmène un véhicule qui pèse une tonne à une tonne 5 à 10 km/h ou 5 km/h en moins, on consomme moins d'énergie au final. Et c'était ce que disait le rapport du Conseil général du développement durable qui accompagnait le passage à 80, qui avait fait cette mesure. En ce qui concerne les radars, moi je voudrais être très très clair. On voit très bien que jusqu'à temps que les radars étaient en bon niveau de fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait on passait pas devant trop vite parce qu'ils étaient bâchés ou abîmés, on avait une baisse continue liées aux 80, moi je l'affirme, des morts sur les routes. Et on a deux courbes qui sont exactement similaires, de la dégradation des radars et de la fin de la baisse, et voire une légère remontée sur les routes bidirectionnelles.
Donc, depuis le mois de novembre.
Voilà, donc l'ONISR et le CEREMA estiment à 60 le nombre des personnes qui, dont la vie n'a pas été sauvée à cause de la dégradation des radars. Mais je précise une autre chose, les radars c'est un bien public. Les amendes des radars...
On sait la proportion de radars qui sont encore en service actuellement, Emmanuel Barbe ?
Vous le savez peut-être, mais nous ne le disons pas, parce que nous voulons éviter deux choses. D'abord qu'il y ait des concours de destruction qui seraient... Et deuxièmement, que ça donne l'idée qu'il n'y a plus de radars qui marchent, ce qui est loin d'être vrai, parce qu'on en a, c'est un nombre limité, mais il fonctionne aussi. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que ceux qui se réjouissent de voir un radar abîmé, et c'est pas eux qui l'ont cassé, évidemment, c'est un très petit nombre de gens qui font cela, ont tort, parce qu'à la fin, c'est leur sécurité qui est en jeu. Le bilan de tout ça, ça va être entre 450 et 500 millions d'euros, donc c'est considérable, c'est dramatique. Et tout ça, c'est de l'argent qui ne va pas à l'entretien des routes. Monsieur le Président, vous le savez bien, il y a une partie de l'argent des radars qui est reversée aux collectivités pour faire des projets d'aménagement des routes. Et donc, tout ça est évidemment navrant, et je pense que collectivement, on doit se désoler de la destruction du réseau de radars, même si être flashé, ça m'est arrivé, ça arrive comme tout le monde, c'est détestable, c'est désagréable.
Vous vous en désolez aussi, Monsieur Septier ?
Oui. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans des excès. Je pense que les radars, ils ont leur... ils sont là pour une bonne raison. Alors après, on peut discuter peut-être de leur implantation. La personne qui parlait disait sur, je sais pas, un kilomètre, il y avait quatre radars. Bon.
Des fois, les radars embarqués, c'est la solution.
Des fois, c'est peut-être un petit peu...
Écoutez, moi je vais vous dire, il y en a qui proposent de n'avoir plus que des radars embarqués et cachés. Moi je trouve qu'il y a une vraie vertu à avoir des radars visibles, même si, vous savez que j'ai des radars qui flashent pas du tout, hein. Ils restent là, ils marchent, ils flashent jamais, mais on les laisse parce qu'on pense qu'ils font ralentir. Le radar, au fond, c'est le rappel du respect de la vitesse. Donc je ne crois pas que le radar embarqué ou que ça soit une bonne idée. Je pense que c'est bien d'avoir des radars au bord des routes. Quand on le voit, on se rappelle, ah oui, il faut que je respecte. Et même si on se fait pas flasher.
On repart au standard de France Inter et cette fois, on va retrouver Marie-Christine Casal. Bonsoir.
Bonsoir. D'abord, je suis désolée parce que je suis grippée et j'ai une voix vraiment épouvantable. Donc, je m'excuse auprès de vous.
C'est pas un souci. On vous entend. Je précise que vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens, qui fait partie du Conseil national de sécurité routière, enfin, qui est représentée au Conseil national. Vous êtes en direct de Montpellier. Vous représentez, Marie-Christine Casal, les blessés de la route. Et moi, je voulais rappeler que vous aviez salué à l'époque la décision d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, vous vous inquiétez de la remise en cause de cette expérimentation du 80 km/h?
Oui, on est inquiet. Puis je voudrais dire à Damien que nous, on ne veut pas donner de leçons. On veut simplement dire que si lui perd 10 minutes, nous, on va perdre des vies. On va avoir des personnes lourdement handicapées. Moi, mon fils, il est toujours handicapé. Il a 36 ans. Il avait 6 ans quand il a été renversé par quelqu'un qui roulait trop vite. On sait très bien que cette mesure, elle est simple. Elle est efficace. Elle est d'ordre régalien, c'est-à-dire que sur tout le territoire, elle doit s'appliquer, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et ça marche, et ça fonctionne, et les chiffres sont bons. Et moi, je me suis intéressée à la sécurité routière, je suis venue au Conseil national pour mieux comprendre. Et les experts nous l'ont dit. Et puis, je voudrais dire toute la désinformation que j'ai entendue cette semaine. Au Conseil national de sécurité routière, il y a longtemps qu'on avait préconisé cette mesure. On vient de toute la France, on n'est pas des Parisiens. C'est pas des Parisiens qui ont décidé que cette mesure était efficace. C'est des experts formidables qui travaillent dans toute la France, qui ont pensé que c'était une bonne mesure et qui nous ont montré que mathématiquement, ça marchait. Oui, ça marche, c'est une mesure efficace, il ne faut pas nous la toucher, parce qu'on va épargner des blessés. Et moi, je sais de quoi je parle. Oui, à mon fils, mais à tous ceux que j'accompagne dans l'association. Et je suis en colère aujourd'hui, vraiment très en colère. J'ai entendu un automobiliste à la télévision dire l'autre jour, oui, il paraît qu'on aurait économisé tant de vies, mais je suis pas sûre que le ratio soit le bon. Moi, j'aimerais qu'on me montre que le ratio est le bon. Mais quel imbécile, peu importe si vraiment le ratio est vraiment le bon. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a évité des morts sur la route. Voilà, je suis désolée.
Mais je vous en prie.
Je suis en colère parce que nous, on sait que ça marche.
Merci Marie-Christine Casal. Un grand merci d'avoir témoigné malgré votre voix. Bon, alors, on va quand même repréciser les choses aujourd'hui, Emmanuel Barbe. La mesure n'est pas remise en cause. C'était de toute façon une expérimentation qui était partie pour 2 ans. Elle est remise en cause ou pas ?
Moi, je ne peux pas vous le dire. Elle est dans le débat et je suis respectueux de ça. Et puis, deuxièmement, il faudrait être fou pour pas voir qu'elle a suscité des réactions. Vous savez, j'ai visité 55 départements avant le 1er juillet, donc j'ai pu discuter. Ce que je constate, c'est que quand on prend le temps de l'explication, qui est pas facile, l'explication, parce que la sécurité routière est pleine de choses contre-intuitives, eh bien, on finit par convaincre des gens. J'ai même eu, monsieur le président, des élus qui m'ont dit « Monsieur Barbe, j'étais contre ça et maintenant je suis pour ». Je pense que il faut ici, il y a un décret qui continue à s'appliquer. Les décisions seront prises, elles m'appartiennent pas. Moi, je mets en œuvre une politique publique et donc elle doit prendre en compte beaucoup de paramètres, dont celui du ressenti des élus. Moi, je partage évidemment votre élu. Ce que je dis juste, c'est que vu ce qui est en jeu, c'est-à-dire si on l'analyse objectivement, peu de perte de temps. Attendre 2 ans, la fin du bilan, pour prendre les décisions qui s'imposent pourrait être une solution, mais je dis ça avec énormément de modestie, je n'ai pas de légitimité démocratique contrairement à mon interlocuteur. Voilà. Et donc c'est le point que je voulais dire.
Patrick Septier.
Bah moi non plus, je n'ai pas de légitimité, comme ça vient d'être dit. C'est une décision du gouvernement, il y a un décret. Moi j'applique la loi. On me dit qu'il faut mettre du 80 partout, on met du 80. Il n'y a pas de sujet.
Et d'ailleurs, le Premier ministre a remercié les présidents de conseil départemental d'avoir été républicains et d'appliquer la règle parfaitement.
Il est hors de question de faire appliquer la loi. Par contre, le Premier ministre dit, au lieu d'attendre 2 ans, on peut peut-être entrer en débat les 80 km/h. Donc, on rentre dans le débat. Après, on peut pas non plus savoir quel sera le résultat du débat. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut regarder tronçon par tronçon, et voilà, c'est tout. Mais en Seine-et-Marne, on appliquera la loi, bien évidemment.
Arnaud nous appelle, il est routier, je crois. Bonsoir, Arnaud Fougère, en Bretagne, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue à vous.
Merci à vous. Moi, je voulais juste dire, tant mieux pour les vies sauvées, mais comment on peut dire que c'est dû aux 80 quand je parcours beaucoup de kilomètres, que ce soit en voiture, en camion, voire en vélo, enfin voilà, et la majorité des personnes, enfin, je ne dois pas être le seul à voir ça, ne respectent pas 80. Très 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 peu. Alors je doute un peu, voilà.
Merci Arnaud.
Moi j'ai pas vraiment d'avis sur le 80 ou 90, mais c'est ce que je
remarque. Vous le respectez, vous?
Voilà. Ah oui. Et c'est pour ça que je le vois. Et je m'énerve au volant, comme je dernièrement, lors d'un contrôle par la gendarmerie, c'est ce que je vais expliquer à la personne, je m'énerve, parce que je sois en voiture ou en camion, on me rattrape, on me colle, on me met en danger, moi ou les personnes qui sont avec moi, et donc c'est insupportable, et il faut pas me dire que... Enfin, donc, le 80, autant mettre 70 alors, autant mettre 70 si ça sauve des vies,
Voilà. Merci Arnaud pour cette question, Emmanuel Barbe.
Ah, d'abord, monsieur, je voudrais vous remercier de respecter les limitations de vitesse, parce que plus il y aura de gens comme vous, plus ça marchera le 80, parce que c'est ça l'idée. Alors pourquoi 80 et pas 70? Parce que 80, il y a très peu de pertes de temps. Si on baissait plus les vitesses, il y aurait des pertes de temps qui seraient en effet insupportables. Là, comme je le disais en début d'émission, les pertes de temps sont très très faibles. En fait, je voulais juste vous dire une chose, monsieur, vous roulez certainement beaucoup, donc vous avez une vraie expérience de la route, mais vous savez que chaque année en France, on parcourt 630 milliards de kilomètres. Et donc, l'accidentalité, c'est la résultante de ça. C'est pour ça que c'est très difficile de comprendre pourquoi cette mesure marche. Parce qu'en fait, elle est l'effet de mesures, de modèles mathématiques qui ont été vérifiés dans tous les pays où on a baissé les vitesses. Le dernier cas, c'est la Suède. Hein, ils sont à 70, les Suédois, c'est pas du tout notre idée. Mais ce qu'on a constaté quand on a fait l'étude, c'est qu'il y a un modèle. Vous baissez d'1% la vitesse moyenne pratiquée sur un réseau, ça fait baisser de 4% le nombre des morts. Et ça se vérifie pourquoi? Parce que tout simplement, la vitesse est dans tous les accidents. Elle en est soit le facteur déclenchant parce qu'on n'a pas eu le temps de freiner, on a eu l'accident, soit encore l'accident est plus grave. Soit un facteur aggravant parce qu'au moment où on a eu le choc, on roulait plus vite. Et ça obéit à des lois, vous savez, exponentielles. C'est-à-dire que ça augmente au carré. Et c'est pour ça que ça crée ça. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe de façon aléatoire? Un accident, quelle que soit sa cause, peut être évité ou moins grave parce que on roulait moins vite. C'est aussi simple que ça. Mais j'avoue que c'est très difficile à concevoir de façon intuitive, parce qu'en tant qu'automobiliste, c'est on peut pas ressentir une statistique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a un certain moment où il y a quand même suffisamment d'éléments qui ont montré que dans tout le monde occidental, le système marche pour comprendre que c'est une bonne mesure. Et les statistiques, je répète, sont faites par des accidentologues qui engagent leur responsabilité hein, et qui et ont pris la responsabilité de donner ces chiffres.
Emmanuel Barbe, Arnaud posait une autre question aussi. Il disait pourquoi passer au 80 alors que déjà le 90 n'est pas respecté. C'est une vraie question, ça aussi.
Alors sa question est très bonne, mais ce qu'il faut qu'il sache, c'est que le dimanche 1er juillet, alors qu'en fait on n'avait pas réglé les radars, eh bien on a eu une baisse des vitesses massive et brutale. Ça veut dire que dans la moyenne des gens qui roulent, énormément ont baissé leur vitesse. Et c'est ce qui produit l'effet. Maintenant, vous avez raison. En fait, ça pourrait porter encore plus fort si on arrivait à ce que plus de personnes respectent cette vitesse de 80. Et pour l'instant, on est encore un peu loin du compte.
Patrick Septier, dans votre département de Seine-et-Marne, oui. Est-ce qu'il y a assez de gendarmes, par exemple, pour faire respecter déjà les mesures existantes?
Alors, ça, je pourrais pas vous répondre. Hein. Simplement, je voulais vous dire aussi que... le 80... a certainement un effet, mais comme le disait votre auditeur, il y a peut-être pas que ça. Nous, par exemple, sur le département, et mon collègue le disait tout à l'heure, nous mettons 55 millions d'euros tous les ans pour refaire des routes, pour faire de la sécurité. Donc je veux croire quand même que ce que nous mettons et ce que l'ensemble des départements mettent pour améliorer la sécurité a aussi une influence sur l'accidentologie. Donc c'est pour ça dire que c'est grâce aux 80 qu'il y a une baisse, bon... Alors, on a certainement une part, mais je pense qu'il faudrait une analyse plus fine pour savoir vraiment comment imputer cette baisse. Sur une route qui est en très mauvais état, qui n'est pas sécurisée, qu'on la mette à 80, mais une fois que les travaux de restauration ont été faits, qu'elle est sécurisée, pourquoi pas la remettre, pourquoi la mettre toujours à 80? Le risque, il est moins important. Alors, vous allez me dire, c'est de la statistique, etc. Mais je pense quand même qu'il y a aussi du bon sens. La statistique ne peut pas tout faire. Il y a un ressenti, il y a une façon de conduire, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Voilà, il faut pas non plus être trop statistique, d'accord. Mais on ne peut pas imputer, enfin, je pense qu'on ne peut pas imputer toute la baisse aux 80.
Emmanuel Barbe.
Alors, la baisse
ça va se terminer là.
Non, bien sûr. Moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de très contre-intuitif, comme je vous dis, en sécurité routière. En fait, pour faire simple, on sait que c'est sur les belles routes qu'on meurt le plus. C'est pour deux raisons. Parce qu'on y roule plus et il y a plus de trafic. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, parce qu'on y roule plus vite. Pour autant, avoir des routes sécurisées, c'est fondamental. Et personne ne conteste le rôle majeur qu'ont eu les conseils départementaux dans la sécurité routière. Ça va de soi. En tout cas, les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres qui sont tout à fait crédibles, qui sont des chiffres fiables et qui sont liés à l'effet des baisses de vitesse observées partout dans le monde occidental. Pour autant, je le répète, c'est bien que les routes soient belles, bien sûr.
Oui. Alors, par exemple, pour le département de Seine-et-Marne, sur le deuxième semestre 2018, sur les routes départementales, nous avons plus de morts que sur...
Il faut des longues périodes, monsieur le président. Il faut des longues périodes.
Je suis d'accord. Voilà. Mais comme on nous dit qu'au bout de 6 mois, il faut y réfléchir, ça ne va pas tout à fait dans le sens.
Et on sait aussi que quand le discours politique commence à flotter, ce n'est pas forcément le meilleur message. Je voudrais juste terminer en citant François sur franceinter.fr qui nous dit « C'est la meilleure mesure pour moi que ce gouvernement a pu prendre parce qu'elle me coûte peu cher. Je gagne 15% sur chaque plein de la sécurité et en plus, je pollue moins. » Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Emmanuel Barbe, d'être venu ce soir. Patrick Septier, vous pouvez repartir dans l'autre sens sur l'autoroute ce soir. J'espère que ça ira mieux que tout à l'heure. Merci à tous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer ce téléphone sonne. Ils se reconnaîtront.